Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce qui va être le 210e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes entrés dans le dernier mois de l'année 2022. Elle touche à sa fin dans une ambiance un peu particulière. L'hiver qui commence bientôt étant placé sous la menace des coupures d'électricité. Cette inquiétude nous concerne tous, y compris le monde de la musique, avec la perspective de concerts éclairés à la lumière des bougies. Je plaisante, encore que, allez savoir, nous n'en sommes pas encore là, heureusement, et dans l'immédiat, l'actualité classique reste foisonnante, alors que la dernière représentation de La Bohème à l'Opéra National du Capitole a lieu ce mardi soir. Bien d'autres événements musicaux sont programmés cette semaine, et les mélomanes vont avoir de nombreuses occasions de sortie pour assouvir leur passion. Pour vous présenter les concerts à venir, je peux compter une nouvelle fois sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avant de parler de l'actualité future, nous allons revenir sur l'actualité la plus récente. Elle a été très prolifique, elle aussi. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, heureux de vous retrouver.
Bonjour.
Pour ce retour arrière. Prolifique, en effet,
oh oui.
Mais aussi très varié dans les formes et les genres musicaux. J'ai indiqué il y a quelques instants que les représentations de La Bohème se terminaient ce mardi soir à l'Opéra National du Capitole. Cette nouvelle production de l'œuvre célèbre de Puccini a rencontré un grand succès public avec une salle comble ou quasi comble durant les 8 représentations. Mais est-ce que ce succès public a été accompagné d'une vraie réussite artistique selon vous ?
Apparemment, oui, même plus qu'apparemment. J'ai pour ma part assisté à l'une des représentations de la première distribution. Vous savez que, selon l'habitude de Christophe Christie, il convoque 2 distributions en général, l'une avec des chanteurs confirmés et l'autre avec quelquefois de jeunes débutants ou de jeunes chanteurs. Là, en l'occurrence, j'ai assisté à la première distribution. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est souligner surtout, c'est la qualité de la mise en scène.
Oui.
Assez pétillant, c'est vivant, c'est théâtral, intelligent, sensible, non, vraiment très bien. Avec des idées incroyables, ainsi, lorsque le rideau s'ouvre, c'est un accordéoniste qui joue. Et donc, il y a un petit épisode, avant que ne démarre l'opéra, c'est un accordéoniste qui vient sur scène, parce que la mise en scène évoque un peu le Paris des années 30 à peu près, des années
19. Dans les années 20, je crois, alors selon Barbe et Doucet, qui sont donc le metteur en scène, le décorateur, et les costumes aussi, je crois que c'est signé
ils ont tout fait, absolument.
Par le duo, et ils ont situé l'action dans les années 20, entre 1920-1930, au marché aux puces,
exactement,
à Paris.
Oui.
À travers le regard d'une femme en fin de vie, dans ce Paris artistique de l'époque, avec ses grandes figures, on y croise Diaghilev, les ballets russes, donc Ida Rubinstein, la grande danseuse, Peggy Guggenheim, Picasso, Hemingway, donc les figures de cette époque. Et alors, quand Mimi est en scène, on est vraiment dans cette époque-là.
Oui.
Et puis, lorsqu'elle n'est pas, on revient au présent. C'est ça, ça
oui,
navigue entre les deux.
Exactement. C'est-à-dire, dès le début, on voit que Mimi est très malade. Au début, elle apparaît chauve même.
Oui.
Donc, et c'est un peu la vision qu'a Mimi de cet épisode. Et c'est vraiment très touchant et très bien fait. Là, déjà, il faut signaler la réussite sur le plan scénique.
Pour eux, je crois, pour Barbe et Doucet, c'est un peu un âge d'or, ce Paris artistique de la belle époque, et puis après des années 20, des années 30, avec ces artistes qui se croisent et se stimulent les uns les autres, et qui prennent soin aussi les uns des autres. J'ai l'impression qu'ils veulent montrer toute la différence avec l'époque que nous vivons aussi.
Oui, peut-être, oui. Il y a peut-être de ça dans leur intention.
Et puis, la partie musicale, bien sûr.
Oui.
L'orchestre, magnifique.
Alors, dirigé par un jeune chef de 31 ans, qui s'appelle Lorenzo Passerini et qui dirige avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de poésie même. L'orchestre est très bien, comme d'habitude. On sait que nous disposons à Toulouse d'un excellent orchestre.
Encore faut-il un grand chef aussi pour se servir de cet orchestre.
Exactement, et c'était le cas. Donc vraiment très très bien sur tous les plans. Ensuite, une distribution, la première en tout cas, très homogène, très équilibré, avec des chanteurs dont certains prenaient leur rôle. Hein. Alors la Mimi est Vanina Santoni, qui est d'origine corse, en fait. Son père est corse et sa mère est russe. Et elle fait
c'est pas mal pour faire une chanteuse, je trouve.
Ah bah oui.
La Corse et la Russie.
Ah tout à fait, c'est parfait. Donc elle fait vraiment une Mimi très touchante et très fervente même, hein, avec de l'ardeur. Hein. Et puis le ténor, donc Rodolfo, c'est Liparit Avetitsian, qui comme son nom l'indique est arménien, et qui chante avec beaucoup de finesse, d'intelligence et de phrasé, de recherche dans le phrasé. Donc c'est vraiment une belle découverte. Et puis il y a Marie Perbost, que l'on connaît bien à Toulouse, qui joue et chante le rôle de Musetta. Alors bon, elle c'est un peu l'image, ce que voulaient donner les metteurs en scène, des chanteuses de cabaret.
Toujours de cette époque. Là.
De cette époque, voilà. Avec,
donc, celle qu'on peut voir sur les tableaux de Toulouse-Lautrec. Alors
exactement.
Lautrec, c'est un peu plus tôt. Hein,
mais, oui, oui, bon. Oui. Vraiment, elle campe un bon rôle. Et puis, une autre découverte, c'est le baryton Mikhaïl Timoshenko, qui est un russe, donc, et qui fait un Marcello éblouissant, hein, vraiment excellent. Hein. Et tous les autres rôles, bon, sont très, très bien tenus. C'est vraiment un grand plaisir, et il se dégage de ces représentations une grande émotion. Bon, on le sait, hein, bohème, évidemment. C'est un peu sur l'émotion. Et donc, les quatre tableaux de l'œuvre, puisqu'il ne s'agit pas d'actes, il s'agit de tableaux. Alors, je ne sais pas pourquoi Puccini a choisi ce terme plutôt que le terme d'acte. Et les quatre actes s'enchaînent de manière tout à fait logique et tout à fait belle et émouvante, donc encore une fois.
Voici un court extrait de cette bohème. Il s'agit justement de la distribution à laquelle vous avez assisté, Serge Chosy, à l'occasion de cette nouvelle production à l'Opéra National du Capitole. Un extrait de La Bohème dans une des distributions, la première, présentée à l'Opéra National du Capitole lors de cette nouvelle et belle production du célèbre opéra de Puccini. Nous reviendrons encore une fois la semaine prochaine sur cette production, justement, avec Robert Pénavert qui, lui, aura vu les deux distributions. Il sera intéressant de les mettre en regard. Notez que la prochaine œuvre au programme, elle est tout aussi célèbre au Théâtre du Capitole, Opéra National du Capitole désormais. Il s'agit des Noces de Figaro, à voir du 20 au 31 janvier. Il y aura 6 représentations. Il y avait donc beaucoup d'autres propositions musicales la semaine dernière, et notamment un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines le 30 novembre, présenté dans le cadre de la 8e édition de Bypass, le forum international de la création musicale, organisé à Toulouse par les compositeurs Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedou, avec leur collectif EOL. Vous avez assisté à ce concert, Serge, il était sous-titré Opus Contemporain et il vous a beaucoup plu, au point que vous souhaitiez revenir avec nous. Quels étaient les musiciens et les compositeurs au programme? Ils étaient nombreux dans les deux cas et de grande qualité, semble-t-il.
Oui, absolument. Je ne peux pas tous les énumérer parce qu'ils sont très nombreux. Donc, il y avait des musiciens, en particulier de l'Orchestre National du Capitole, qui ont fondé ce nouvel ensemble qui prend le nom d'Opus Contemporain. C'est un nouvel ensemble instrumental qui s'intéresse à la musique vivante, à la musique actuelle. Et c'était très vivant, justement, avec pas moins de 7 compositeurs d'aujourd'hui qui était au programme, hein, avec notamment celle qui est un peu l'emblème de cette édition de Bypass et qui s'appelle Georgia Spyropoulos, qui, comme son nom l'indique, est grec, et donc dont on donnait une œuvre d'ailleurs qui s'appelle Pnoès, ce qui signifie respiration en grec et qui est destiné à un instrument avant. Ça peut être n'importe lequel, mais un instrument avant. Et ça, c'était une de ses œuvres. Ensuite, il y avait alors une espèce de fil rouge qui était une série d'improvisations des musiciens, 6 musiciens, sur une partition graphique de Félix Rosen, qui est à la fois un musicien, mais surtout un graphiste, enfin un peintre. Et donc, il y avait sur scène la projection d'une de ses œuvres, avec 6 lignes. À chaque ligne, on attribue un instrument. Donc, c'était 3 interventions chaque fois sur la même partition, je mets des guillemets, évidemment, sur la même partition, 3 interventions différentes, 3 improvisations, 3 séries d'improvisations. Donc, c'était un peu le fil rouge. Et puis, il y avait des œuvres de compositeurs pas toujours très connus, Sacha Blondeau, Adrien Tribucchi, David Udry, Yann Maresch, et puis, alors, un qui est quand même, lui, très connu, c'est Philippe Hurel.
D'autant plus qu'il est toulousain.
En plus toulousain, qui avait offert son œuvre en spirale, une très belle œuvre, intéressante. Chaque fois, l'œuvre repose autant sur l'interprète que sur le compositeur, évidemment. Hein. Alors, pour un peu animer tout cela, il y avait un clarinettiste solo de l'ensemble intercontemporain, qui est Jérôme Comte, qui dirigeait certaines œuvres, pas toutes. Hein,
Parce que ça allait du solo,
oui,
comme
du
d'ailleurs
solo,
la pièce titrée « En spirale » de Philippe Hurel,
voilà.
qu'il a même écrite, je crois, pour Jérôme
lui,
Comte.
Absolument, hein, Jérôme Comte, ils sont très amis.
C'est lui qui l'a interprété à Saint-Pierre-des-Cuisines le 30 novembre. Ah, donc, oui. Ça allait du solo au groupe de 9 musiciens.
Exactement. Et d'ailleurs, je voudrais souligner, donc, l'incroyable performance de Jérôme Comte pour la pièce de Philippe Hurel, c'était impressionnant de virtuosité, d'imagination. Un grand moment. Il a été acclamé d'ailleurs de manière très justifiée. Il faut vraiment saluer la qualité de tous ces musiciens, tous ces instrumentistes qui se donnent à fond dans cette musique avec laquelle ils vibrent et qui communiquent de manière impressionnante avec l'ensemble du public, un public vraiment enthousiaste, hein, qui a beaucoup aimé. Et donc, je crois que c'était un moment important de musique d'aujourd'hui.
Oui, la qualité de ces musiciens, mais on peut aussi saluer leur curiosité, le fait qu'ils aient l'esprit aventureux, parce qu'il faut avoir l'esprit aventureux
Absolument.
Pour un musicien, pour aller vers ces musiques-là, pour aller vers ces compositeurs d'aujourd'hui.
Absolument, oui, c'est tout à fait ça. Puis ils ont des choix à faire, hein, puisqu'il y a quand même une production abondante d'œuvres d'aujourd'hui. Mais le grand problème, c'est qu'il faut absolument que cette œuvre rencontre son public. Hein. Et là
tout l'intérêt de ce forum
Bypass. Oui.
Hein.
Donc, on est heureux que l'année prochaine, il y aura un 9e forum qui aura lieu de nouveau. Alors là, la plupart des concerts avaient lieu au Ring.
Oui.
La scène périphérique de Toulouse. Et c'était le seul concert qui avait lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines. Mais vraiment, la salle va très bien avec ce genre de prestations.
Il y avait donc au programme de ce concert à Saint-Pierre-des-Cuisines une œuvre intitulée « Entre-là ». « Entre-là » pour 6 instruments, pièce composée par Yann Maresch, dont je vous propose d'écouter un extrait. Thank you. l'ambiance mystérieuse de ces entrelacs pour six instruments, pièce de Yann Maresch, que l'on a pu entendre le 30 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines lors du dernier concert du Forum Bypass 2022. Et Serge Chosy, vous vouliez préciser autre chose.
Oui, donc deux des compositeurs étaient présents, évidemment Philippe Hurel, qui est, on pourrait dire, un local, mais également Adrien Tribucchi, qui a également des liens avec Toulouse et qui est l'auteur d'une pièce qui s'appelle Micropsia. Une pièce très originale pour neuf instruments, qui a été dirigée d'ailleurs par Jérôme Comte. Une pièce basée sur la micropsie, qui est une altération de la vue, dans laquelle les objets apparaissent plus petits qu'ils ne sont. Et c'était une espèce de pointillisme sonore vraiment très intéressant. Une œuvre intéressante.
Apparemment, il y avait beaucoup de choses intéressantes tout au long de ce Forum Bypass et notamment de ce concert du 30 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et le lendemain, au même endroit, était donné le deuxième concert de la saison 22-23 de Toulouse Guitare. Mmh. Et Thibaut Garcia, son directeur artistique, y avait programmé un duo prestigieux, celui que forment depuis des années la violoncelliste allemande Anja Lechner et le guitariste espagnol Pablo Marquez. Ils ont proposé un programme de transcription de Lieder de Schubert et de Nocturne du moins connu Friedrich Burgmüller, un contemporain du grand compositeur autrichien. Et ce fut encore une grande soirée de musique, Serge.
Oui, absolument. Alors, le programme avait été modifié par rapport à ce qui était annoncé. Il y avait une seule pièce de Burgmüller, au début d'ailleurs, et ensuite c'était du Schubert, intégralement du Schubert, avec tout d'abord, avant l'arrivée d'ailleurs du couple en question, ce qui est maintenant une habitude de Toulouse Guitare, la présentation d'un jeune ou d'une jeune guitariste, en l'occurrence c'était une jeune guitariste, qui s'appelle Yewelyn Barré, qui est actuellement en deuxième année du cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, et qui est arrivée sur scène pour interpréter certaines pièces. Et alors la grande surprise, c'est qu'elle est arrivée sur scène en compagnie d'un chien. Elle a apporté son chien, un petit chien noir et blanc, apparemment mélomane, parce qu'il était, il s'est couché sagement à ses pieds.
J'ai cru que vous alliez me dire qu'il faisait les chœurs.
Non, pas du tout. Il était très sage et apparemment il l'écoutait religieusement. C'était assez particulier.
Ah oui, c'est pas commun ça. C'est
pas commun du tout, mais finalement ça marchait.
Si le chien tient tranquille, ça pose aucun problème. J'adore les chiens. Plus
en plus. Il était allongé à ses pieds et voilà, il était apparemment très heureux. Il ne sursautait qu'au moment des applaudissements. Ça le surprenait. Mais la musique, non, pas du tout. Il était très habitué. Et donc, elle a joué plusieurs œuvres. D'abord, une œuvre d'Antonio Lauro, La Gattica. Mais l'ensemble des œuvres était rien nostalgique d'ailleurs. Et puis, deux sonates de Scarlatti, avec une première aussi assez nostalgique, une deuxième plus légère, et puis enfin une pièce de Manuel Maria Ponce, donc une suite dont le troisième mouvement était très émouvant et très, très beau. Et puis elle a joué un petit bis avec un troisième personnage qui est venu sur scène, sa sœur, qui joue de l'alto, et elles ont joué toutes les deux, observé par le chien, évidemment, un must, un Volver de Carlos Gardel.
Ah oui.
Et donc, voilà.
C'est un petit clin d'œil à Toulouse en plus.
Ah oui, exactement. Donc, c'était une première partie très particulière. Ensuite, donc, la deuxième partie, c'était violoncelle et guitare. Alors, qui sont venus et qui se sont lovés, on peut dire, dans ce nouveau dispositif acoustique, transparent, en plexiglas, qui équipe maintenant certaines salles, et c'est extrêmement efficace. Il n'y a besoin d'aucune sonorisation. Cette coque, en quelque sorte, acoustique.
Ce sont des conques acoustiques, je crois que c'est le terme exact.
Oui, les conques,
sous
exactement.
Forme de module s'assemble, donc on peut donner la taille que l'on veut à ce dispositif. Là, c'était pour deux musiciens, mais ça peut aller au-delà, pour ce que j'en sais.
Jusqu'à une vingtaine.
Voilà.
Oui.
Et effectivement, l'effet est surprenant. En tout cas, ça améliore grandement l'acoustique.
Énormément.
Bon, je ne sais pas si à Saint-Pierre-des-Cuisines, il y en a besoin à ce point-là, mais dans certains lieux, clairement.
Pour certains instruments, oui. La guitare en particulier, très souvent, même à Saint-Pierre-des-Cuisines, elle est sonorisée. Là, elle ne l'était pas. Elle n'avait pas besoin. Ouais. Donc, nous avions ces deux artistes dont la combinaison sonore est d'une irrésistible séduction. C'est vraiment parfait, surtout pour l'essentiel du programme qui était une série de transcriptions de Lieder de Schubert. Alors là, évidemment, le violoncelle, c'est l'instrument de la voix humaine, ça s'adapte parfaitement. Il ne manque que les mots, mais vraiment. Et puis surtout joué par Anja Lechner, qui est vraiment une grande musicienne. Et donc, on a eu l'impression d'entendre ces Lieder vraiment par un chanteur ou une chanteuse. Et là, c'était un violoncelle. Alors, le lead qui a vraiment le plus d'impact, c'était Der Leiermann, le dernier lead du voyage d'hiver. C'est le joueur de Vielleroux. Alors là, c'était le désespoir en musique. Une chose émouvante à un point incroyable. Et puis la deuxième partie de leur intervention, c'était la fameuse sonate arpeggione, qui a été conçue par Schubert pour un instrument qui est aujourd'hui disparu, qui était baptisé à l'époque d'ailleurs guitare-violoncelle. C'est amusant. Ou guitare-archet, ou quelquefois guitare d'amour. C'est un instrument à six cordes. Et là, le violoncelle le remplace très bien ici. Et donc, d'autant plus que les deux interprètes ont fait là assaut à la fois de finesse et d'élégance. C'était un moment formidable. Au point que, évidemment, ils ont dû jouer un bis. Et ce bis, c'était alors dans un domaine tout à fait différent, le domaine de la latinité en quelque sorte, puisqu'il s'agissait d'une chanson de l'Argentin Carlos Guastavino qui s'appelle Milonga de dos hermanos. Et c'est une chanson très typique d'Argentine. C'est sur un poème de Borges. Donc voilà, on était vraiment dans la culture sud-américaine. Et donc c'est ce qui a conclu cette soirée qui était vraiment pleine d'émotions.
Eh bien, nous allons écouter cet excellent duo Lechner-Marquez dans une interprétation de la romance de Rosamund de Franz Schubert. Romance de Rosamund, de pièce de Franz Schubert, interprétée par Pablo Marquez et Anja Lechner, l'une des pièces au programme de leur concert du 1er décembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, pour le compte de la saison Toulouse Guitare, dont le prochain rendez-vous est programmé dimanche 22 janvier à 17h, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un autre duo, flûte-guitare celui-ci, formé par Millet Ogura et Athanas Urkuzunov. Nous restons encore à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le quatrième et dernier événement sur lequel nous souhaitions revenir lors de cette émission. Vendredi 2 décembre, c'est la maîtrise de Toulouse qui s'y est produite sous la direction de son excellent chef Marc Hopstadt. Et c'était un concert très attendu puisqu'il marquait le lancement du nouvel album de la maîtrise, Serge. Un album où l'on retrouve deux œuvres, composées pour la première par le Suisse Franck Martin et pour la seconde par le Français Maurice Durufflet, mais elles n'étaient pas au programme du concert du 2 décembre.
Non, ce concert, en quelque sorte de promotion, de lancement du 7e album quand même, hein, de cet ensemble, était tourné vers la période de Noël. Hein, donc c'était un programme vraiment très différent, avec trois parties. Une première partie, c'était la fameuse série des Ceremony of Carols de Benjamin Britten, pour Noël donc, et c'était donc chanté par cette maîtrise. Rappelons quand même qu'elle a été créée en 2006, au sein du Conservatoire de Toulouse, qu'elle est dirigée depuis par Marc Hopstadt, on peut dire expert en la matière, hein. Il est britannique et vraiment on sait
c'est
que...
C'est le pays des maîtrises, évidemment.
Exactement.
Angleterre.
Et je voudrais souligner vraiment la qualité, alors je ne parle que de grande qualité depuis le début de cette émission, mais les trois concerts auxquels nous avons assisté, c'est des concerts de grande qualité.
Non, mais le niveau auquel Marc Hopstadt a amené la maîtrise de Toulouse,
c'est
extraordinaire.
Oui.
Je rappelle qu'ils ont été distingués par le très prestigieux prix Bettencourt. Je crois que c'était en 2017.
Oui, oui, le 27e
ça
prix.
Aussi, ça classe sa qualité d'un ensemble.
Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, la revue American Record Guide a estimé la chose suivante, a dit « Il n'y a probablement rien que ce chœur ne pourrait chanter, et ce, superbement bien ». Ça, sur un plan international, c'est quand même une sacrée appréciation. Et donc, la première partie, c'était cet ensemble choral donc, de Benjamin Britten, avec des chœurs d'enfants qui apparaissent sur scène sous forme de procession. Ils arrivent en chantant, en procession, et ils repartiront avec ce que Benjamin Britten appelle une recession, donc un retour. Et puis, il y a toute cette série de petits chœurs. Alors là, vraiment, on admire la limpidité du chant de ces jeunes chanteurs, leur précision incroyable, la cohésion, l'attention et la conviction. Et puis aussi, il faut le dire, hein, le bonheur de chanter qui se lit sur tous les visages hein, de ces jeunes chanteurs. C'est une pure merveille. Et il faut souligner que dans cette partie de Ceremony of Carols, c'est accompagné par une harpe. Et il faut souligner la qualité de la harpiste Dominique Piussan,
qui est la professeure de harpe du Conservatoire de Toulouse.
Exactement.
Et qui est une excellente professeure.
Et excellente harpiste, avec notamment cet interlude au milieu des chœurs, il y a un interlude pour la harpe solo. Ah, c'était
une élève de Marie-Claire Jamais, Dominique Piussan.
Grande harpiste.
À qui elle est restée très liée d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Mais vraiment. Un très beau moment. La deuxième partie, alors c'était la présentation du nouvel album, effectivement, mais qui s'est faite par une vidéo de Marc Hopstadt qui évoque les deux grandes œuvres, donc dont vous avez parlé, la messe pour double chœur de Franck Martin et le Requiem de Maurice Duruflé, et avec deux solistes, Juliette May et Alain Buet, donc qui figurent sur le CD enregistré, qui ne paraîtra qu'en février d'ailleurs. Et donc, on apprend que cet enregistrement a eu lieu au Temple des Salins, qui bénéficiait donc du bel orgue de Jean d'Aldosso, qui est un très bel orgue du Temple des Salins. Et donc, dernière partie de la soirée, là c'était un très attendu répertoire de chants de Noël qui était abordé, évidemment.
Inévitable.
Ah, inévitable. Et donc, alors il y avait quelques traditionnels du genre « Silent Night » et Jingle Bells, mais chaque fois harmonisé, soit par Marc Hopstadt, soit par d'autres musiciens. Et là, bon, ben c'était les traditionnels chants de Noël avec l'ensemble de la maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a les enfants et puis des jeunes, qui ne sont plus des enfants, qui sont des tout jeunes adultes, qui sont venus rejoindre leurs jeunes amis donc, de cette maîtrise. Il y a eu également un bis sur Noël, encore une fois. Donc, un grand, grand succès. Alors, je voudrais préciser que, alors comme c'est souvent le cas quand c'est un concert de chorale, il y a des gens qui n'ont pas pu entrer tellement...
Oui, c'était archi-plein, vous m'avez dit. Ils ont refusé du monde.
Archi-plein. Il y avait des gens assis sur les marches, ce qui n'est pas bien,
oui,
d'ailleurs.
Normalement, il ne faudrait pas.
Il ne faudrait pas. Mais bon, ça a été un succès incroyable. Donc, très, très beau. Je voudrais signaler quand même, parmi les chants de Noël, il y en a un qui s'appelle Carol of the Bells. C'est un Noël ukrainien. D'un certain oui. Leontovitch, on comprend pourquoi.
Bien sûr.
Marc Hopstadt a tenu à introduire un Noël ukrainien.
Grand succès donc et succès mérité. Voici un extrait de la messe pour double chœur a cappella de Franck Martin, qui n'a pas été chanté vendredi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais que l'on retrouve sur le CD que vient de faire paraître la maîtrise de Toulouse, l'Agnus Dei.
Thank you.
Le Super Magnus Dei de la messe pour double chœur a cappella de Franck Martin, interprété par la maîtrise de Toulouse sous la direction de Marc Hopstadt. Le magnifique CD que vient de faire paraître la maîtrise sera disponible sur le site www.maîtrisedetoulouse.fr. Ça aurait pu être une belle idée de cadeau de Noël, mais il ne va sortir qu'en février. Donc, hein.
Exact.
Fin de cette longue et très variée première partie d'émission. Nous faisons l'habituelle petite pause musicale et l'on se retrouve dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy pour la partie agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chosy. Nous allons le commencer par le prochain concert de la saison des grands interprètes. Jeudi 8 décembre à 20h, la Halle aux Grains. C'est un habitué des lieux qui s'y présente, l'orchestre philharmonique de Radio France, avec à sa tête le chef sud-coréen Myung Woon Chung. Et il y a une seule œuvre au programme, Serge, c'est pas n'importe laquelle.
Ah non, la toute dernière symphonie achevée de Gustav Mahler, la 9e, puisqu'on sait que la 10e, il l'a commencé, mais...
Lui aussi a été victime de la malédiction
de la 9e, oui, exactement. Et donc, il n'a pas pu la terminer. Donc, c'est la 9e symphonie de Gustav Mahler qui est la seule œuvre au programme de ce concert. Alors, bon, c'est vrai que c'est un ensemble, Myung Woon Chung et le Philharmonique de Radio France, qui est venu souvent dans le cadre de la saison Grands Interprètes. Signalons qu'il est maintenant son directeur musical honoraire, puisqu'il a été de 2000 à 2015 le directeur musical de l'orchestre.
Oui, c'était un long bail. Hein.
Ah oui, oui, oui. Donc 15 années à la tête de cet orchestre. Et là, c'est donc le directeur musical honoraire. Signalons quand même que Myung Woon Chung est à la base un pianiste.
Oui.
Et qu'il a ensuite étudié la direction d'orchestre. Mais c'est un excellent pianiste qui d'ailleurs s'est produit ici, déjà en concerto, en tant que soliste et en même temps en tant que chef d'orchestre. Donc cette 9e symphonie, qu'on peut considérer comme le testament un peu de Gustav Mahler, elle intervient au moment d'une période particulièrement difficile pour lui.
Il en a malheureusement eu plusieurs dans sa vie.
Ah oui, mais là c'était une accumulation incroyable, puisque c'était la fin de son contrat de directeur de l'Opéra de Vienne. Il était un peu victime d'antisémitisme. Il avait été directeur pendant 10 ans. Puis, il y a eu le décès de sa fille Maria, âgée de 4 ans, et la découverte de son état physique très alarmant, un problème cardiaque qui l'emportera d'ailleurs. Donc, voilà, c'est pas une symphonie du bonheur. Hein. C'est une symphonie très dramatique, mais très méditative. Hein. Ça n'est pas une explosion de colère ou autre. Elle a été esquissée dès 1908. Alors, il y a une chose intéressante. Mahler écrit à son ami, le chef d'orchestre Bruno Walter, « Qu'est-ce donc en nous qui pense et qui agit ? Comme c'est étrange, lorsque j'écoute de la musique ou lorsque je dirige, j'entends très précisément la réponse à toutes ces questions et j'atteins alors une sécurité et une clarté absolue. Mieux, je ressens avec force qu'il n'existe même pas de questions. » Donc, et cette sérénité incroyable qui imprègne toute la symphonie et donc dont il n'a pas pu voir la création, puisque c'est Bruno Walter lui-même qui l'a créé en 1912, plus d'un an après la mort de Gustav Mahler.
Il est mort en mai 1911, si ma mémoire est bonne. Ouais, effectivement, ouais. Alors il a quand même le temps de commencer une 10e.
Oui.
Donc,
oui.
Quand on parle de symphonie testament pour la 9e,
oui.
Sans doute sentait-il que malheureusement, il ne lui restait pas beaucoup de temps, mais il continue à composer tout de même.
Exactement, exactement. Mais il n'a achevé que le premier mouvement de la 10e, et il y a quelques esquisses des mouvements suivants, d'ailleurs, qui ont été reconstitués.
Oui.
Donc, les mouvements suivants. Il existe des versions, notamment d'Eric Cook, une version d'un Britannique, qui donne une symphonie intégrale, une 10e, mais elle n'est pas intégralement de Mahler.
Mais cette 9e est une merveille.
Une merveille absolue.
Parmi les merveilles, parce qu'il en a composé beaucoup, des merveilles, Gustav Mahler,
oui,
notamment
là,
plan symphonique.
Et là, elle a une particularité, c'est l'organisation des mouvements. Les deux mouvements lents sont aux extrêmes, le premier et le dernier.
Ça, c'est pas commun, effectivement.
Il y a deux mouvements rapides qui sont encadrés par ces deux mouvements lents. C'est en fait une symphonie méditation.
Tout de suite, un extrait de la symphonie numéro 9 de Gustav Mahler, le début du premier mouvement Andante Commodo, dans une version de l'orchestre philharmonique de Radio France, mais placée ici sous la direction d'Hartmut Henschen.
Thank you.
le poignant début du premier mouvement d'Dante Commodo de la symphonie numéro 9 de Gustav Mahler, interprété par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction d'Hartmut Henschen, mais c'est bien Myung-Hoon Chung qui va la diriger jeudi prochain à la Halle aux Grains, le 8 décembre à 20h, dans le cadre de la saison des grands interprètes. Et le lendemain, on reste à la Halle aux Grains, mais avec l'Orchestre National du Capitole qui prend le relais. Deux invités ce soir-là, le chef helvéto-vénézuélien Domingo Indoyan et le violoncelliste hongrois István Várdai. Il y a deux œuvres au programme de ce concert, lesquelles, Serge ?
Oui, alors précisons quand même que c'est la première fois que Domingo Indoyan,
oui, contrairement à István Várdai, qui
István Várdai avait donné un concert, notamment un concert pendant le confinement,
oui,
et donc un concert sans public.
Très bien de ce
donc,
concert.
Là, il revient donc pour un concert enfin public, et donc le chef. Et effectivement, helvéto vénézuélien qui vit en Suisse, est quand même né en 1980 à Caracas. Signalons qu'il est marié à une célèbre chanteuse d'opéra bulgare, Sonia Yoncheva. Voilà, donc c'était vraiment une famille de grands musiciens. Alors, c'est un chef qui est passé par le système bien connu vénézuélien, justement El Sistema.
C'est comme Gustavo Dudamel,
voilà,
et quelques autres.
Et quelques autres, et donc il a collaboré avec de grands orchestres. Et donc, il vient ici pour donner deux œuvres, pour diriger deux œuvres. L'une est de Dvorak, le deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. Et la deuxième œuvre, c'est la troisième symphonie, dite héroïque, de Beethoven. Alors, le violoncelliste, lui, il est né en Hongrie, hein, et il a suivi des études très prestigieuse. Le concert qu'il avait donné à huis clos à la Halle aux Grains, c'était sous la direction de son compatriote Gábor Kali,
oui, oui,
en l'occurrence. Alors ici, il va jouer en soliste le concerto donc numéro 2 en si mineur d'Anton Dvorak que le compositeur a écrit lors de son séjour aux États-Unis.
Oui, oui.
C'est une œuvre qui a été achevée pendant l'hiver 1895 et c'est le dernier concerto qu'a écrit Dvorak, probablement le plus abouti, une vaste partition, probablement le plus long concerto pour violoncelle de toute l'histoire de la musique. C'est une œuvre formidable, magnifique, très symphonique et très ample. Ensuite, il dirigera Domingo Indoyan, donc la symphonie numéro 3. Cette symphonie communément appelée Eroica, alors on connaît l'histoire, elle était d'abord dédiée à Napoléon,
oui,
Bonaparte, parce que Beethoven le considérait comme l'héritier des grands idéaux de la Révolution française, que soutenait ardemment Beethoven, et lorsqu'il a appris que le premier consul s'était fait couronner empereur, il a pris une colère terrible, et il a renoncé évidemment à la dédicace. On signale même, et on peut le voir encore sur le document de l'orchestre, qu'avec la plume, il a percé le papier, tellement il était en colère contre cette action de l'ex-premier consul. Donc, il l'a finalement dédié à la mémoire d'un grand homme, tout simplement. Mais il faut préciser que c'est tout de même une œuvre révolutionnaire sur le plan symphonique. Elle marque une rupture avec tout le passé de la symphonie. Et donc, la composition de symphonie ne sera plus la même après cette troisième et magnifique œuvre. Et très souvent, on la considère comme marquant le début de la période romantique.
Oui.
Donc, on aura ces deux grandes œuvres au programme de ce concert.
Et ces deux grands compositeurs. Nous allons l'écouter, István Várdai, dans une interprétation du concerto pour violoncelle numéro 2 d'Antonín Dvořák. C'est le deuxième mouvement, Adagio ma non troppo.
Thank you.
Ezvan Vardaï jouait ici le deuxième mouvement Adagio ma non troppo du concerto pour violoncelle numéro 2 d'Anton Dvorak. Il va le jouer également vendredi à 20h à la Halle aux Grains, accompagné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Domingo Indoyan. Le dernier événement à noter absolument sur vos agendas cette semaine, c'est le concert que donne à deux reprises, samedi 10 décembre à 20h et dimanche 11 à 16h au Théâtre du Capitole, le Concert des Nations dirigé par son fondateur Jordi Savall. Il y a là aussi une seule œuvre au programme, alors immense et de circonstance, le fameux oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Une merveille, Serge, une merveille parmi les merveilles.
Absolument. Mais alors, je voudrais préciser qu'il ne va pas donner l'intégrale.
Il n'y a pas l'intégrale, il n'y a pas les 6 cantates.
Il donnera les 3 premières cantates, donc, ce qui est déjà magnifique. Je voudrais quand même rappeler que cet ensemble, hein, le Concert des Nations, a été créé en 1989. Par Jordi Savall et son épouse, décédée depuis, la soprano Montserrat Figueras. C'est un orchestre sur instrument d'époque qui est destiné à interpréter le répertoire orchestral et symphonique du baroque jusqu'au romantisme. Et son nom provient de l'œuvre de François Couperin, Les Nations. Et donc c'est ce titre que Jordi Savall a voulu donner à cet ensemble qui représente en quelque sorte l'union des goûts musicaux et la prémonition que l'art en Europe aurait pour toujours sa propre marque. Voilà exactement ce qu'en dit Jordi Savall. Alors, cet ensemble donc sera donc l'interprète des 3 premières cantates du Grand Oratorio composé par Jan Sebastian Bach pour célébrer les 3 jours de fête de Noël, Nouvel An et Épiphanie. Voilà les 3 jours qui sont fêtés par cet oratorio. Pour la première fois, Jordi Savall vient diriger non seulement le Concert des Nations, mais le chœur de l'Opéra National du Capitole.
Oui.
Ça, c'est tout de même exceptionnel. Hein. Et donc, il y aura évidemment 4 solistes également. Loris Mirnov Amish, qui est la soprano. Keimon Murat, qui est l'alto, alto masculin. Valentin Thiel, que l'on connaît à Toulouse,
oui.
Qui a déjà chanté sur la scène du Capitole, ténor. Et Camille Bensaïn Lachiri, basse. Donc voici, ce sont les interprètes de ces 3 cantates. La première cantate, c'est la naissance. C'est la première cantate qui est chantée le 25 décembre, en principe. L'annonce aux bergers, la deuxième cantate, chantée le 26. Et l'adoration des bergers, c'est la troisième cantate qui est chantée le 27 décembre. Donc, 2 représentations. On a donc le choix pour y assister le samedi 10 décembre à 20h et le dimanche 11 décembre à 16h.
Un monument de la musique sacrée européenne que ce Weihnachtsoratorium, cet oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, dont je vous propose d'écouter le début, l'air tout aussi fameux, Jauchzet, Frohlocket auf Preiset die Tage, par le Concert des Nations, dirigé par Jordi Savall.
Thank you.
Joyset for Locket auf Preiset die Tage, début de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. On prend les mêmes, l'œuvre, l'orchestre et son chef, on ajoute le chœur du Capitole et quelques chanteurs solistes et on obtient le programme et les acteurs des concerts de Noël des samedis 10 à 20h et dimanche 11 décembre à 16h au Théâtre du Capitole. Les places sont à réserver et à acheter en ligne sur le site www.théâtreducapitole.fr. Nous sommes arrivés au terme de ce 210e numéro de Mélomanie, auquel je remercie Serge Chosy d'avoir participé. Merci de votre collaboration fidèle, Serge. Je rappelle avant de terminer que l'Orchestre Philharmonique de Radio France est en concert à l'Allograin ce jeudi 8 décembre à 20h. Il va y donner la 9e symphonie de Gustav Mahler sous la direction de Myung-Woon Chung, une soirée proposée par les grands interprètes pour laquelle vous pouvez faire vos réservations et acheter vos places en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Et enfin, je signale de nouveau le concert de l'Orchestre National du Capitole, toujours à la Allograin, vendredi 9 décembre à 20h, sous la direction de Domingo Indoyan. L'ensemble symphonique toulousain va interpréter la symphonie numéro 3 de Beethoven et accompagner le violoncelliste István Várdai dans l'exécution du concerto pour violoncelle numéro 2 de Dvorak. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Un grand merci à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité à cette émission et excellente semaine musicale à tous.